Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Répliquez-vous, l'émission de Liberté FM qui parle de ressources humaines sans tabou et avec un bon café à la main. Je suis avec Christophe Rougeat, consultant. Bonjour Christophe.
Bonjour tout le monde, bonjour Christian.
Alors aujourd'hui on aborde un sujet essentiel mais encore trop souvent négligé, le dialogue social dans les petites et moyennes entreprises. Beaucoup de dirigeants de TPE et de PME nous disent « Mais enfin, on se parle tous les jours dans l'atelier ou à la machine à café, pas besoin de procédures compliqué. Et pourtant, quand ça coince dur. Alors, on va vous aider à comprendre à quoi ça sert, comment le mettre en place et comment le faire vivre intelligemment. Et pour ça, c'est Christophe qui va nous expliquer tout ça.
C'est moi qui m'y colle.
Voilà. Alors, on t'écoute, Christophe.
Bah écoute, aujourd'hui, l'idée, c'est d'être sur une émission qui soit utile, sans jargon, et avec des outils qu'on va pouvoir activer dès demain dans les petites TPE, PME du territoire. Parce que le dialogue social, c'est pas un truc qui est réservé aux grandes entreprises ou aux comités d'entreprise surdimensionnés. Ouais. C'est vraiment une pratique de bon sens qui peut vraiment transformer une entreprise et l'enfoncer si on le néglige.
Alors, le dialogue social, de quoi parle-t-on exactement ?
C'est pas juste faire des réunions ou afficher un PV dans le hall d'entrée, c'est vraiment l'ensemble des échanges entre l'employeur et les salariés ou leurs représentants sur des sujets qui touchent à la vie de l'entreprise. Donc ça va englober plusieurs choses, la santé, la sécurité au travail, les conditions de travail, l'évolution de l'organisation, donc l'évolution de l'entreprise et de son développement, les salaires, les horaires, l'égalité professionnelle, les orientations stratégiques quand c'est pertinent. Et même dans une entreprise de 10, 12, 25, 40 salariés, il y a toujours des choses à dire, à entendre, à anticiper. Et quand on ne les dit pas, ça s'accumule et ça finit par exploser à un moment donné. Donc c'est hyper important d'avoir des temps d'échange avec les équipes.
Oui, alors Christophe, qu'est-ce qui est obligatoire et à partir de quand ?
Alors, il y a plusieurs grands repères. Déjà, les entreprises de moins de 11 salariés, chez elles, rien d'obligatoire. Okay. Le dialogue social, c'est plutôt informel, mais ça reste capital. Ensuite, à partir de 11 salariés, pendant 12 mois consécutifs, l'entreprise elle a l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un CSE, un comité social et économique. Okay. Donc le CSE, en fait, c'est une instance unique de représentation du personnel dans l'entreprise. Ça a été instauré par les ordonnances de Macron de 2017 et ça a remplacé les anciennes instances représentatives type DP, CE, CHSCT, etc. Dans une logique de simplification et de modernisation du dialogue social. Et donc ça va être mis en place à partir du moment où on a 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Et la composition et les missions du CSE évoluent selon la taille de l'entreprise, moins ou plus de 50 salariés. À partir de 50 salariés, le CSE a plus de latitude et de pouvoir, entre guillemets. Son rôle, c'est de représenter les salariés auprès de l'employeur. Donc de remonter les réclamations individuelles ou collectives. C'est d'être consulté sur les décisions économiques et sociales, réorganisation, formation, conditions de travail, et de contribuer à la protection de la santé, la sécurité et les conditions de travail. Et enfin, gérer les activités sociales et culturelles pour les salariés. Et ça, c'est uniquement à partir des entreprises de 50 salariés et plus. Voilà, donc à partir de 11 salariés, l'entreprise doit mettre en place ce fameux CSE et donc communiquer avec lui dans le cadre du dialogue social. Et à partir de 50 salariés, le CSE a une puissance un peu plus conséquente puisqu'on va parler aussi de politique sociale, de formation et d'orientation économique au niveau de l'entreprise. Mais la taille de l'entreprise ne fait pas tout, ce qui compte c'est vraiment la qualité du lien, la régularité des échanges et la reconnaissance du rôle de chacun.
Et alors, pourquoi mettre un dialogue social structuré, même en PME ?
Parce que quand c'est bien fait, comme d'habitude, c'est un atout stratégique pour l'entreprise. Ça va permettre d'apporter certains bénéfices concrets qu'on a pu observer chez certains de nos clients. Il y a moins de conflits. Dès que les salariés peuvent s'exprimer, les tensions se désamorcent parce qu'on n'est pas dans l'imaginaire et on est sur des choses qui ont été vues et travaillées. Il y a une réduction de l'absentéisme qui permet, parce que les irritants en fait, au quotidien sont remontés et traités, donc les gens sont plus à l'aise dans leur structure. Il y a une prise de décision qui est beaucoup plus fluide, parce que quand les gens sont associés à l'évolution de l'entreprise, ils sont plus forcément à même de suivre la politique générale et d'avoir envie de s'y inscrire. Il y a une image RH qui devient plus attractive. On parle souvent de marque employeur, donc surtout pour les nouvelles générations, parce que ça donne du sens. Et puis, il y a une culture du feedback qui est améliorée, qui permet de développer plus facilement les process, la sécurité, la qualité.
Alors, comment est-ce qu'on met en place un dialogue social dans une TPE-PME ?
Il y a cinq étapes, en fait, pour mettre en place un dialogue social. Déjà, c'est la première chose, c'est de faire un état des lieux. Donc, est-ce qu'il y a des tensions ? Si oui, lesquels ? Les salariés ont-ils des lieux pour s'exprimer et des temps d'échange ? Qu'est-ce qui a été formalisé concrètement dans l'entreprise pour favoriser le dialogue social ? Ensuite, il y a installer le cadre légal, donc organiser, si on a plus de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs sur l'année, les élections du CSE si besoin, rédiger un règlement intérieur pour le CSE, c'est important aussi, et former les élus, formation financée à 100% par l'entreprise, voilà, pour qu'ils puissent être efficients dans leur rôle. Ensuite, prévoir des rituels, des réunions qui soient trimestrielles ou mensuelles, suivre les plans d'action qui ont été mis en œuvre et décidés pendant ces réunions, et communiquer après les réunions sur l'affichage obligatoire, etc., envoyer des mails et compagnie pour que les gens soient informés de ce qui se passe. Ensuite, il est important de choisir des bons outils. Donc, on peut utiliser des outils de sondage, par exemple, type Klaxoon, Deform, Google Form, qu'importe. Mettre en place un affichage dynamique et puis proposer pourquoi pas des carnets de propositions, des QR codes qui permettent de se connecter sur les sondages de manière anonyme, etc. Et puis enfin valoriser les élus ou porte-parole, leur donner du temps pour qu'ils puissent travailler sur ces missions, les associer à la stratégie RH et au plan de développement des compétences et à la gestion des emplois et des parcours professionnels pour qu'ils sachent ce qui va arriver demain et qu'ils puissent préparer les salariés à tout ça et être solidaires aussi de votre démarche. Et surtout, écouter vraiment ce qu'ils disent. Parce qu'on a tendance à oublier que la parole est importante et que les salariés, mine de rien, c'est ceux qui sont sur le front au quotidien, qui rencontrent les clients, etc. et qui sont en capacité de dire ça fonctionne bien et ça fonctionne moins bien.
Bien sûr.
Pour pouvoir améliorer les choses.
Alors, avant de voir les risques qu'on encourt, si on ne le fait pas, eh bien, on va faire une pause musicale. Tu as choisi Jimmy Sachs aujourd'hui.
Oui.
Allez,
on j'aime bien les trucs tranquilles.
Très bien, on y va. Vous venez d'écouter Jimmy Sachs Time, vous écoutez bien Liberté FM, l'émission Répliquez-vous avec Christophe Roujat. Aujourd'hui, nous parlons de la mise en place de dialogue social dans une TPE-PME. Nous avons vu les différentes étapes, nous voyons maintenant les risques si on ne met pas un tel dialogue social en place. Alors Christophe,
Les risques, tout simplement, c'est qu'il y ait des conflits qui explosent sans prévenir au sein même de l'entreprise. Et qui dit conflit dit perturbation de l'activité. Ça peut aller jusqu'à des grèves et donc une productivité qui est complètement en berne. Donc, donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Ça peut être aussi les prud'hommes, tout simplement, pour défaut de consultation des instances représentatives du personnel, notamment le CSE. Une démotivation des collaborateurs qui peut être... silencieuse mais durable, parce qu'on oublie que les salariés peuvent être présents physiquement et rendre un travail qui va être moins efficient. Et donc on a l'impression qu'ils sont là et qu'ils bossent, mais au final c'est une grève douce.
Pas très productif.
Exactement. Et une rupture avec les valeurs d'engagement de l'entreprise et l'envie de tout simplement de partir. Il y a des gens qui peuvent se dire à un moment donné, on n'est pas considéré, on n'est pas écouté, donc je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. Et souvent les dirigeants me disent, mais je ne savais même pas qu'il y avait un malaise, justement parce que le dialogue social c'est l'outil pour voir venir. Et si on ne prend pas le temps de se poser, on ne voit pas. On a l'impression de se rencontrer, on en a déjà parlé dans d'autres émissions aussi, mais c'est pas parce qu'on voit les gens tous les jours qu'on les connaît concrètement et qu'on a vraiment pris le temps de discuter avec eux. Donc c'est primordial de se poser à un moment donné et de réfléchir à ce qui se passe dans l'entreprise et d'échanger sur le quotidien, sur comment les gens voient les choses, comment ils les vivent, etc.
Alors dans une grosse entreprise, il y a normalement un service de ressources humaines qui est attentif à toutes ces choses-là, mais quand il n'y en a pas, et pas de service juridique non plus.
Eh bien, tout va bien. Il y a des possibilités qui peuvent être offertes aux entreprises. C'est pas qu'une question de moyens, mais plutôt de posture et d'envie de la part de l'entreprise et de ses dirigeants. Déjà, il y a possibilité de faire appel à des consultants RH ou des médiateurs externes, dont nous faisons partie, par exemple, sans vouloir nous mettre en avant. Mais il faut savoir que les prestations de conseil en ressources humaines, ce sont des vrais leviers pour les entreprises qui sont pris en charge en général par en cofinancement entre la DRETS et les opérateurs de compétences.
D'accord.
Donc, vous pouvez solliciter des structures comme Réplique et être suivi, accompagné pour la mise en place de tout ça. On va vous outiller, on va vous autonomiser. Et tout ça, c'est pris en charge à 100% en général par l'adresse et l'OPCO. Donc, c'est quand même opportun s'appuyer sur ce type de structure. Du coup, s'appuyer sur l'OPCO pour financer la formation des élus ou des managers aussi, parce qu'il y a au-delà de la prestation d'accompagnement pour former les gens, il y a des budgets qui sont proposés. Et puis, il faut savoir aussi que ces budgets-là, de prestations de conseil en ressources humaines, je le dis parce que les gens ne le savent pas forcément. Dans un plan de développement des compétences, les OPCO, ils financent à la fois les formations, pures et dures, et donc il y a certains critères de prise en charge maximum qui sont mis en place. Et souvent, les entreprises ont l'impression qu'en faisant une prestation de conseil en ressources humaines, elles vont manger leur budget formation. Alors que ce sont deux enveloppes complètement distinctes, qui n'ont rien à voir. Donc vous pouvez très bien faire appel à une prestation de conseil en ressources humaines, tout en conservant votre budget formation à côté. Voilà. Et ensuite, former les dirigeants tout simplement à l'écoute active, à la conduite de réunions sociales, parce que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Encore une fois, quand on devient chef d'une entreprise, d'une TPE notamment, on s'est lancé parce qu'on avait un cœur d'activité qui nous faisait plaisir de mettre en œuvre. Mais après, on devient responsable de plein de choses. Et il faut vous manager, il faut structurer, il faut faire du commerce, il faut faire ceci, il faut faire cela, de la communication et machin. Et on n'est pas forcément allé sur tous les sujets, et d'où l'intérêt de se former, quoi.
Alors, est-ce que tu as quelques exemples concrets, Christophe, de bonnes pratiques ?
Oui, j'ai par exemple une entreprise que j'accompagne actuellement qui a 18 salariés. C'est une entreprise de l'agroalimentaire qui a mis en place un café social tous les deux mois, donc avec des questions anonymes déposées en amont. Donc les salariés, ils peuvent envoyer leurs questions et puis lors de la réunion, on répond et on débat. Donc voilà, donc ça permet de créer un temps d'échange et de consultation. Une PME également où là on a 35 personnes qui organisent une rencontre tripartite trimestrielle entre les dirigeants, les élus, les managers de chaque service pour faire un état des lieux complet. Et donc, chacun expose ce qu'il a à dire. Et à partir de là, c'est une sorte d'état des lieux. Donc, on pose les choses. Et une fois que les choses sont posées, on se dit, quels sont les sujets sur lesquels on veut travailler, quel plan d'action on met en place, qui va faire quoi, à quelle échéance. Et sur chaque réunion, on revient sur les choses qui ont été établies en amont.
D'accord.
Et on voit la progression et si les gens ont bien suivi ce qui devait être fait et comment ça a été mis en œuvre et comment ça a été perçu et quels ont été les résultats, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut capitaliser parce que ça a fonctionné, qu'est-ce qu'il faut améliorer parce que, au contraire, ça a dysfonctionné, etc. Mmh. Et puis, j'ai une entreprise également, là, on a 12 personnes qui a mis en place un comité de sécurité bénévole qui est piloté par 2 salariés pour améliorer les conditions de travail, tout simplement.
D'accord.
Donc, des fois, c'est des choses toutes bêtes, hein, toutes simples, hein, qui peuvent être mises en œuvre pour faire en sorte que ce climat soit le plus favorable possible.
Ah oui, et les gens parlent facilement.
À partir du moment où la posture du manager est adaptée, ça pourrait être un sujet des missions d'ailleurs, oui, les gens parlent facilement. Il est certain que déjà, c'est des temps d'échange qui sont spécifiques, donc il faut les faire dans un contexte particulier.
Oui.
On va se réunir dans une salle qui n'est pas forcément le bureau du dirigeant. Le dirigeant va se mettre en cercle avec les collaborateurs pour être dans une posture d'échange et de dialogue. Il est certain que si moi je me mets d'un côté du bureau, les autres de l'autre, et que moi je me mets sur mon siège très en hauteur,
bien
et les
sûr.
Autres ont des sièges plus bas, voilà, tout de suite je me mets en position dominante, ça ne favorise pas l'échange. Quoi.
Okay.
Donc ça va dépendre de la manière dont les dirigeants vont mettre ça en place.
Donc, si je résume bien, même sans être une multinationale, on peut et on doit organiser la parole dans l'entreprise, pas par obligation, mais par intelligence collective, tout simplement.
Exactement. C'est la force du collectif et c'est là que c'est hyper intéressant.
Parfait. Et donc, cet investissement rapporte de la sérénité, de la cohésion et du progrès.
Tout à fait, Christian. Tu me l'enlèves de la bouche.
Alors, ceux qui aimeraient approfondir le sujet ou alors justement voir ça en détail et avec sa propre entreprise, eh bien, il suffit de contacter l'équipe de Réplique. On va peut-être rappeler les coordonnées.
Ouais, d'autant plus que c'est quand ça va bien qu'il faut le construire ce plan-là parce que quand ça va mal, c'est déjà trop tard. Donc, on peut nous contacter au 05 64 13 98 00 via notre site internet www.replique.com ou via contact@replique.com.
Parfait, merci beaucoup Christophe.
À très bientôt.
À merci
prochaine.
À toi Christian.
Salut.